Oui, bien sûr.
C'est bon.
Le flan, partie intégrante de la cuisine française traditionnelle, c'est tellement vieux qu'on a presque le sentiment que c'est le flan qu'a inventé le reste.
Du sucre, du lait, des œufs. Et puis, il y a un ingrédient aussi qui est vraiment lié à l'enfance, c'est la vanille. C'est l'un des premiers arômes que va connaître le jeune enfant et donc il va s'y complaire finalement à retourner tout au long de sa vie.
Alors, aujourd'hui, on va faire un flan pâtissier.
Moi, c'est ma madeleine de Proust, personnellement. C'est le premier gâteau que ma grand-mère m'achetait lorsque j'avais 6 ans.
On est vraiment dans un dessert du réconfort.
Flan pâtissier, c'est très simple à faire. Il faut bien respecter les étapes et vraiment, vous allez vous régaler. Alors maintenant, c'est à vous.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. C'est bien connu, la pâtisserie est le truc du moment, avec ses lubies, ses manies, ses envies. Et en ce moment, il semblerait que le nouveau Graal des pros de la spatule, des amateurs de pâtisserie, des éditeurs de cuisine, eh bien ce soit le flan. Flan pâtissier, flan boulanger, flan parisien, tarte au flan, phare en Bretagne, fion en Vendée, fiadone en Corse. Appelez-le comme vous voulez, mais son effet est le même. Une texture onctueuse et réconfortante qui nous laisse comme deux ronds de...
flan.
Ouais, bravo.
Je l'avais.
Elle était compliquée. Ouais. Quelles sont les origines de ce dessert? Comment réaliser le flan pâtissier parfait? Les enjeux de cette émission sont posés et on y répond avec nos deux invités. Jus Chamallow, bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Derrière ce pseudo qui fait très envie se cache un véritable bec sucré, autodidacte, passionné de pâtisserie en général et de flan en particulier, très suivi sur les réseaux sociaux et sur Instagram et auteur de Mes flans pâtissiers, 50 recettes de flans classiques et créatives aux éditions de La Martinière avec les photos signées Emery Chemin. J'ai le livre à mes côtés, on salive à chacune de ces pages. Vous vous êtes vraiment penché sur la question du flan pâtissier avec beaucoup de passion et de détermination. On va voir avec vous que le flan à la maison, c'est certes un peu technique, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Vous nous avez apporté 3 exemplaires de flan, un classique et 2 variantes, c'est bien ça?
Exactement, oui, le choco sarrasin et le praliné pistache.
Voilà, alors il y a un flan à la vanille évidemment, hein, signé évidemment. Julien Chamallow, il y a aussi effectivement choco sarrasin et praliné pistache. On va les goûter ensemble évidemment et puis on va apprendre à les faire. Également avec nous Loïc Bienassi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre historien Loïc dans la bande dont on va déguster. Vous êtes chercheur à l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation, IEHCA, ça dépend de l'Université de Tours.
Exactement.
Et vous avez spécialement investigué pour nous sur les origines étranges, on peut le dire, hein, du flan. C'est pas simple. Ça m'a mettait une enquête à la Sherlock Holmes.
Ah, tout à fait. Voilà. Comme d'habitude, j'allais dire.
Absolument. Et les conclusions dans cette émission, en exclusivité, dans les fauteuils des chroniqueurs, notre libraire gourmande Déborah Dupont, notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Déborah, alors une fois n'est pas coutume, vous êtes la caution salée. Oui, j'ai bien dit la caution salée dans cette émission.
Oui, c'est logique. On parle de flan, j'apporte une tourte charcutière, je vois pas où est le problème. C'est un appareil et une pâte.
Et ça dépend d'un formidable livre dont vous allez nous parler, un livre de référence sur la charcuterie à la maison. Jérôme Gagnès.
Lorsque la bulle, comme le saumon qui fraye et remonte à ses origines, la bulle revient à son origine.
Ah, et c'est très intéressant. Alors comme ça, ça peut vous sembler
énigmatique,
mais on va y voir beaucoup plus clair dans la deuxième partie de cette émission.
C'est un vin flamboyant.
C'est un vin flamboyant. Non, mais on va comprendre. C'est vraiment une cuvée tout à fait étonnante. Il nous en raconte l'histoire tout à l'heure. Si vous voulez mettre votre grain de sel, ou en l'occurrence votre grain de sucre, dans notre émission aujourd'hui, envoyez-nous vos remarques et vos questions sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Tous les contenus de l'émission, coup de cœur, recettes, podcasts, sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant la dégustation de nos flans pâtissiers, je vous propose de vous réveiller le palais avec un café. Oui, un café à la fois délicat et tonique pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Alors figurez-vous que j'ai moulu fraîchement ce café et je suis en train de l'extraire avec l'aide de Jérôme avec ma propre machine à expresso que j'ai branchée dans notre studio, le studio 521 de la maison de la radio. Et je vous l'ai servi. Vous entendez le ronronnement derrière moi. Ça va? Vous y arrivez ou pas, Jérôme?
Ouais, je m'en sors.
Ouais, bah oui, je vois ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le goûter? Je l'ai servi à Loïc, à Julien, à Jérôme Exception faite de Déborah,
j'ai
pourquoi
mon tour. Vraiment, le café, je fais partie des choses, des rares choses que je n'aime pas.
Il va falloir corriger cette lacune.
Oui, alors beaucoup s'y sont essayés.
Y compris le café dans la pâtisserie.
Oui, y compris.
Éclair au café.
Même un opéra. Je
non.
Oui,
non,
l'opéra,
alors,
je peux pas.
Voilà. Quelle déception.
C'est compliqué.
Loïc Bienassi, qu'est-ce qu'on pense de ce café court, bien serré que je vous ai
oui,
versé?
Assez pointu.
Oui, assez pointu.
Pas trop d'ampleur, en fait, je trouve. Et oui, c'est une amertume qui est assez légère, donc assez plaisant. Et, ouais.
Julien?
Oui, pareil. Je le trouve même limite doux, pas du tout amer, enfin, même presque sucré.
Oui. Jérôme?
Eh bien, moi, je le trouve... Alors, pour reprendre le terme de Loïc, effectivement, c'est pas très ample. C'est tout à fait dans un style d'un café qui est peu torréfié.
Oui.
Avec cependant, une splendide amertume très fine qui donne énormément d'allonge. Moi, je suis très fan de cafés qui sont très torréfiés à l'italienne. Donc, évidemment, c'est un style tout à fait différent pour moi. Je reconnais ici une très grande subtilité aromatique, de la complexité et encore une fois une allonge absolument phénoménale.
Et on est d'accord pour dire que ça commence un peu de façon légèrement ronde avec des arômes un peu cacaotés ou des arômes d'amande et qu'on a une fin de bouche un peu plus pointue avec un côté un peu citronné, un peu même pomelo hein, pour le mélange acidité-amertume.
Surtout le cacao en attaque, c'est étonnant.
Oui.
Surtout pour un café qui est peu torréfié comme ça.
Vous voulez savoir de quoi il s'agit?
Oui.
Alors je l'ai là, attention. C'est un arabica du Costa Rica, issu de la ferme Agropecuaria Rulum. C'est 30 hectares de culture biologique situés à 1200 mètres d'altitude au Costa Rica. Et sachant qu'il n'y a, il n'y a que sur 26 000 fermes de café au Costa Rica, il n'y a qu'une dizaine en bio. Et celle-ci est donc biologique, c'est une ferme exemplaire, elle est en agroforesterie, les caféiers cohabitent avec d'autres essences comme le manguier. Et cette ferme fait vivre plusieurs familles de fermiers sur la plantation. Elle produit son propre compost à base de matière organique, leurs propres infusions de plantes pour lutter biologiquement contre la fameuse maladie de la rouille qui fait des ravages en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Le café est séché, figurez-vous, selon la méthode mielée et non lavée. Ça vous dit quelque chose? Lorsque l'on ouvre une cerise pour obtenir le grain de café, vous savez, il y a un mucilage, une espèce de pulpe un peu gluante, un peu gélatineuse qui entoure les grains de café. Et bien, pour dépulper le café, normalement, il y a la méthode du café lavé et la méthode du café mielé qui est vraiment typique du Costa Rica. C'est un système de dépulpage qui est en plus très raisonnable en termes de consommation d'eau. Une partie de la pulpe reste en fait sur le grain et après avoir été exposé au soleil pendant une vingtaine de jours, et bien ce grain de café est entouré d'une légère membrane séchée qui donne au café une certaine sucrosité, cette tonalité mielée justement qu'on doit retrouver. On retrouve aussi de la sucrosité dans ce café. Et bien ce café est sourcé en direct et de façon totalement équitable. En gros, c'est le producteur qui fixe le prix du café et il est torréfié avec douceur par la maison Lagrange, fondée en 2009 par Barbara et Vincent Ballot. On est à Marnay, une commune de 1600 habitants située en Haute-Saône, Franche-Comté, à côté du Jura. Barbara s'occupe des thés et des infusions et Vincent s'occupe du café. Il a développé un savoir-faire d'une précision horlogère dans la torréfaction. Torréfaction douce, vous avez raison, Jérôme Gagnez. Et il est devenu, figurez-vous, il y a quelques années, en 2018, le premier meilleur ouvrier de France, torréfacteur. Le concours s'est ouvert en 2018. C'est vraiment la section torréfaction qui a été ouverte dans le concours des MOF. Il y a eu 3 lauréats, Vincent Ballot, plus une Brésilienne et un Australien en France. Autant vous dire que le garçon est fort en café.
Bah, voilà. Vous m'avez converti. Je pense que vous êtes le premier à réussir à me convertir et peut-être à me sortir du café la torréfaction italienne. Parce que ça, c'est vraiment remarquable.
Ouais, il y a vraiment une très belle complexité aromatique. Ouais. Torréfaction douce pour optimiser la fraîcheur du café sans trop chercher l'amertume, justement. Jus Chamallow, à la page 38 de votre livre, ça nous a pas échappé qu'il y avait un flan café.
Un flan au café, exactement.
Comme quoi c'est possible.
Tout est possible avec le flan.
Ça marche bien, flan au café?
Très bien, pour ma part en tout cas, moi j'adore le flan, donc oui ça marche.
C'est l'appareil, en fait c'est l'appareil à flan dans lequel vous avez versé un café infusé.
Exactement, j'ai infusé les grains de café, ou alors du café.
Ah carrément?
Oui, dans le lait qu'on laisse infuser.
On infuse des grains de café.
Voilà.
Et vous avez un choix de cru en particulier ou pas forcément ?
Pas forcément.
Très bien. Le café du Costa Rica, torréfié par Vincent Ballot à la maison Lagrange. Toutes les infos pour se le procurer en ligne ou sur place sur franceinter.fr à la page On va déguster. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission avec Alexandre Chenet à la technique, Nadia Chougui pour la préparation. Dans un instant, on s'enflamme pour le flan, on ouvre grand la bouche et on écoute Grandes Oreilles de M, choisi par Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous y sont les merveilles et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mon petit orteil. Je peux bégayer. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles?
L'histoire du flan, ce n'est pas de la tarte. Cette pâtisserie bien connue de nos papilles viendrait d'Angleterre et remonterait au Moyen-Âge. Appelé custard tart, ce flan est composé, of course, d'une crème anglaise étalée sur une pâte. Un dessert que les Anglais plébiscitent encore et toujours, puisque la reine Elisabeth II l'a mise au menu de son 80e anniversaire en 2006. Un intérêt de longue date outre-Manche, puisque Henri IV de Lancastre, roi d'Angleterre, réputé pour être un grand gourmet, mit ce dessert à l'honneur pour son couronnement en 1399. Il portait alors le nom de « Doucetees ». On ignore si la pâtisserie a vraiment inspiré les expressions « en rester comme deux ronds de flan » ou « en faire tout un flan ». Il a en revanche inspiré les gourmands du monde entier. Les Portugais ont le pastéis de nata fait avec de la pâte feuilletée et beaucoup de sucre. Les Chinois ont le pinyin danta, dont la traduction littérale est « tarte aux œufs ». Les Argentins, quant à eux, ont le casero, servi généralement avec du dulce de leche, la confiture de lait. Bref, la liste est longue.
C'est la thèse officielle qui circule, y compris dans les carnets de Julie, l'émission de Julie Andrieux sur France 3, dont on entendait à l'instant un extrait, la thèse selon laquelle le flan à la française serait le descendant de la custard tart, apparu sous le règne d'Henri IV d'Angleterre. Alors, on commence à vous connaître un peu, Loïc Bianassi. Vous allez certainement nous répondre que ce n'est pas si simple.
Non, c'est pas si simple. J'aime être prévisible. Non, mais c'est qu'en réalité, on a, ça a été un peu dit d'ailleurs dans l'extrait, dans différents pays, différentes contrées, des préparations un peu similaires. On a, en Angleterre, en effet, c'est custard tart, mais ce qui est, ce qu'on trouve en Angleterre au Moyen-Âge, c'est notamment des recettes de darioles, là-dedans, des ouvrages culinaires, qui sont en effet des types de flans, si on veut.
Hein. Darioles, alors des c'est darioles. Un nom qui a totalement disparu du vocabulaire gastronomique, mais effectivement c'est une vieille recette, hein. Il y a des vieux textes qui en parlent. Cette spécialité n'existe plus, mais elle a donné son nom à un moule.
Oui, assez individuel, hein. Assez haut. Et...
Voilà, et assez haut. Donc on connaît que le moule, mais on ne savait pas que ça correspondait à une spécialité qui serait une cousine du flan.
Oui, c'est ça, enfin, dans la grande famille des flans, donnez-moi les darioles, hein. C'était vraiment, on a comme ça, qui ont été cités aussi, hein, les pastéis de nata, etc. exactement, dont on trouve des recettes, je crois la plus ancienne, dans un manuscrit 16e, 17e siècle pour les pastéis de nata. Donc voilà, c'est une grande famille. En France, on a aussi des darioles au Moyen-Âge. On n'a pas de recettes par contre, mais on a des recettes de flaon. Au Moyen-Âge en France, le mot est attesté dès la fin du XIIe siècle et on a différentes recettes qu'on peut trouver ensuite. Souvent, on va avoir des recettes avec de l'anguille dedans, parfois sans œufs, et puis on a des recettes qui se rapprochent par contre du flan qu'on connaît aujourd'hui.
Donc c'était pas forcément une spécialité sucrée au départ ?
Non, ah non, pas du tout. Ça pouvait l'être. Alors, c'était pas une spécialité sucrée, sauf qu'on pouvait avoir des recettes à l'anguille avec du sucre.
Ah.
Hein. Et donc parce que, justement, là, une des caractéristiques de la cuisine médiévale, c'est qu'il n'y avait pas ce partage sucré-salé tel qu'on le conçoit aujourd'hui.
Après tout, nos amis japonais font bien caraméliser l'anguille. Ça donne l'unagi, qui est très très bonne, notamment sur un sushi, sur un canapé de riz. Il y a donc un dénominateur commun entre toutes les spécialités que vous citez, c'est-à-dire des œufs, du sucre, souvent des produits laitiers. Ça s'apparente en quelque sorte, toutes ces spécialités, à des crèmes aux œufs. Mais il est difficile d'identifier une généalogie entre tous ces desserts. Compliqué de dire qui est l'ancêtre de l'autre, en fait.
Oui, exactement. Exactement, parce que, de toute façon, puisqu'on parle du Moyen-Âge, il y a des traditions culinaires partagées. C'est-à-dire que ce que nous ont livré les livres de cuisine médiévaux, que ce soit des livres de cuisine, les manuscrits anglais, des manuscrits français, etc., il y a une culture quand même de aristocratique, gastronomique commune. Donc on retrouve des produits, on parlait des darioles, c'est le cas, des produits dans un peu toute l'Europe. On retrouve des recettes en Italie aussi, par exemple.
Est-ce que l'étymologie du flan pourrait nous aider? Parce que moi, j'ai une interprétation qui consiste à rapprocher le mot flan. Là, je m'attends aussi à la réaction de Loïc Bienassi. Hein. On rapproche le mot flan de la Flandre, grande productrice de lait, l'ingrédient principal du flan. Est-ce que c'est fantaisiste ?
Alors oui, c'est fantaisiste. Non, non, c'est ce qu'un. Non, c'est ce qu'un érudit Pierre Borel disait au XVIIe siècle. Mais dès le XVIIe siècle, certains estimaient que c'était juste le fruit de son imagination et une trop grande liberté prise avec l'étymologie. Non, on s'accorde aujourd'hui à estimer que ça vient du bas latin flado,
d'accord,
qui lui-même l'a emprunté au haut allemand pour un mot flado, qui qualifiait des galettes, des crêpes. Et c'est ce mot qu'on retrouve ensuite sous la forme flaon
en français. Absolument. Et fiadone, parce qu'on a une auditrice un peu en colère qui nous écrit, mais non, le fiadone n'est pas du tout un flan, pardon madame, mais fiadone vient bien de flaon. Il y a un cousinage avec le flan, et de surcroît il y avait beaucoup de ces préparations qui comportaient à l'origine
du fromage
frais.
Mais jusqu'au 19e siècle, c'est-à-dire que on pouvait même, on a des recettes 17e, époque moderne, 17e, 18e où le mot flan, sans plus de précision, est en fait un flan au fromage, si on veut, avec des fromages frais et des fromages secs qu'on introduit dans l'appareil. Donc, en fait, on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est toute une famille de produits qui sont des sortes de tartes avec un appareil, généralement aux œufs, mais pas nécessairement même, mais très généralement aux œufs. Et en effet, la variante au fromage est aussi un grand classique de la cuisine française du XVIIe, XVIIIe siècle.
Donc on pourrait ranger sous cette catégorie un certain nombre de spécialités régionales comme le fard breton, le clafoutis limousin,
absolument,
la flognarde en Auvergne, oui, qui est une espèce de flan aux pommes, flaune ou flaune du côté de Millau également, il y a le flan maraîchain ou fion de Vendée,
exactement,
on ne rigole pas, une recette traditionnelle vendéenne, la flamus, sorte de flan de Bourgogne et du Nivernais, où elle se fait traditionnellement aux pommes et s'apparente un peu au clafoutis limousin là encore, la flamus bressane, alors là on est du côté de la Bresse, un flan garni de crème au fromage avec des œufs, on parlait de fromage justement, ou encore le flanais en Champagne. Comment expliquez-vous, Loïc Bienassi, que le mot flan ait un statut aussi peu reluisant dans la langue française? Un tir au flan.
C'est autre chose, attention.
Ouais, flan, c'est avec le flan avec un C. Tire sur les flancs.
Ah, pardon. Donc, vous êtes sûr?
Ouais.
Non, je suis pas sûr.
Si.
Un tir au flan désignerait celui qui est paresseux, qui est un peu mou. C'est ce que j'ai lu dans le.
Tir au flan avec le flan avec un C.
Oui, oui, je pense
d'accord.
Aussi.
Bon, alors je n'ai rien dit. On remonte de 15 secondes cette émission. C'est du flan en revanche. Ça veut bien dire c'est du chiquet, c'est du bullshit,
oui,
diraient les Anglais.
Oui, Pierre Larousse en parle dans son dictionnaire en 1872 de cette expression, où en parlant finalement de la popularité du flan, notamment auprès des classes populaires, c'est quelque chose qui ne coûtait pas cher, le flan. Donc c'est du flan, ça ne valait rien. Voilà, c'était là c'est l'origine.
Alors,
Et puis sinon, évidemment, le flan, ça renvoie à ce côté mou, à un côté flambi, on pourrait dire aussi.
Qui désignait un certain président de la République qu'on qualifiait de pas assez énergique, en fait.
C'est ça, voilà. Donc il y a cette dimension-là. Et puis il y a l'expression qui a été évoquée, deux ronds de flan, qui là, à mon avis, bon, il y a des thèses qui divergent, mais ça renvoie plutôt aux yeux écarquillés de ronds de flan. Deux tartes de flan, si on veut.
Alors non, enfin, il y a plusieurs... Je me suis renseigné également sur le sujet. Laurent Thomas vient de me dire au casque, malheureusement, cher Jérôme Gagnès, vous aviez raison. Un tir au flan, il y a bien assez à flan. Donc
merci,
je ferme mon caquet. En revanche, pour deux ronds de flan, le flan serait un mot qui, en ancien argot, désignerait l'argent. Et deux ronds de flan, ce serait deux pièces de monnaie. On écarquillerait les yeux comme deux pièces de monnaie.
Alors, c'est une autre hypothèse. Mais un flan, en effet, qualifie la frappe et donc une pièce de monnaie, enfin, la finesse d'un rond, quoi. Mais non, ça peut aussi être... Ça peut renvoyer, justement, c'est assez confus, comme souvent les origines des expressions. Et ça peut tout autant renvoyer au flan que l'on mange.
Juge Chamallo, à quand remonte votre passion du flan ?
Oula, ça date, hein. Alors, le flan, pour moi, c'est une passion qui date de... presque de ma naissance.
Ah, donc c'est
tout petit, j'adore ça.
C'est pas du tout une lubie branchée, parce que le flan, on l'a dit en entame de cette émission, il est présent partout désormais, alors qu'il était considéré comme gentiment ringard il y a encore quelques années. Ouais, il est vrai que le flan, on en parle à toutes les sauces, il y a des livres sur le sujet, mais vous en mangez depuis tout petit.
Ouais, depuis tout petit, oui, j'adore ça. Tout simplement parce que c'est comme un verre de lait, c'est une crème, c'est onctueux, c'est tout doux.
Il y a le côté vanillé qui pourrait éventuellement renvoyer aussi à l'enfance.
Oui, exactement. Enfin, une petite anecdote. Quand j'étais petit, mes camarades couraient après les viennoiseries, le chocolat, les bonbons, etc. Ben, moi, non. Le flan.
C'était le flan.
Je sais pas pourquoi. C'est parce que c'était bon, tout simplement.
Et le flan a longtemps été considéré, d'ailleurs, comme un dessert de boulanger. Plus qu'un art pâtissier. Vrai. C'était vraiment le dessert que faisait le boulanger parce qu'il était pas trop compliqué. Donc, on trouvait le flan à côté, des viennoiseries ou des lunettes sablées à la confiture.
Exactement. C'est ça. Bon, maintenant, il a été mis en avant avec les grands chefs, les grandes pâtisseries, les grandes maisons. Et peut-être que les réseaux sociaux ont fait aussi mis en avant cette pâtisserie. Certainement. En tout cas, pour moi, c'est ma pâtisserie.
Parfait. Alors, on a autour de ce plateau des très beaux flans. Je vais vous demander de goûter d'abord la version classique à la vanille, me vous dire ce que vous en pensez, parce que Julien Chamallo a une définition très précise du flan, notamment en termes de texture. Déborah.
Alors, la texture est très souple, elle n'est pas cassante, parce que parfois les flans, quand ils sont trop gélifiés, on a l'impression en fait qu'on peut le casser en deux. Là, c'est soyeux.
Exactement. Comment vous la définissez, la texture de votre flan,
Julien ? Moi, je le trouve onctueux. Pour moi, un flan, il doit se tenir et être onctueux. Limite crémeux, mais pas crémeux, parce que sinon on passe après sur de la crème aux œufs, de la crème brûlée. Un flan doit se tenir, pour moi. Après, c'est mon goût, mais je l'aime comme ça.
Mais il doit pas être gélatineux ?
Non. Non, non, justement, pas élastique.
Alors, Jérôme ? C'est quand même...
C'est très, très bon.
Il y a assez de sucre pour vous ?
Oui.
Ah, on est rassurés parce que souvent, il n'y a jamais assez de sucre pour Jérôme Guénèse. Ah, presque assez de sucre.
Moi, j'aime bien la texture aussi parce que elle est, comme vous l'avez très bien dit, je ne le dirais pas mieux que vous, c'est très onctueux, ça se tient, la pâte apporte ce craquant, il y a ce jeu de texture... Et puis c'est vanillé, donc c'est sérieusement vanillé.
Ouais, c'est vraiment vraiment un très très beau spécimen de flan pâtissier. On peut vous féliciter. Et ben, bonne nouvelle, chers auditeurs. On va vous révéler quelques-uns des trucs et des secrets pour réaliser ce flan à la maison. Et c'est possible. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, on va quand même pas faire de fausses promesses. C'est un peu technique. Faut de l'entraînement. Tout est sur Internet. Vous nous avez donné vraiment le mode d'emploi complet depuis la pâte jusqu'à l'appareil. On va commencer par la pâte. On verra un peu plus tard pour l'appareil à flan. Ouais. Mais la pâte est importante parce que dans le cas du flan pâtissier, il s'agit bien, on va le voir dans un instant avec Loïc Bienassi, d'une tarte en fait.
On peut voir ça comme ça, ouais. Moi j'aime bien le contraste avec la pâte sucrée que je mets en place, une pâte sucrée vergeoise. Donc le contraste de l'onctuosité de l'appareil et le croquant de cette pâte.
Absolument.
Vergeoise pour moi parce que justement je trouve que c'est plus croquant qu'une pâte sucrée au sucre glace.
On rappelle à nos auditeurs ce qu'est la vergeoise ?
Alors, la vergeoise, c'est un jus de betterave.
C'est ça.
Qui est cuit et caramélisé. Ne pas confondre avec la cassonade, parce que la cassonade, c'est du sucre de canne. Voilà. Souvent, les gens confondent un peu cassonade et vergeoise.
Et la vergeoise, on la trouve dorénavant assez facilement dans les rayons des supermarchés, en ligne.
Un peu partout.
C'est une espèce de mélasse de sucre de betterave. Ouais. C'est donc, en plus, français et proche. Oui. Et ça apporterait à la pâte à la fois une aromatique, mais également une couleur.
Exactement. Ça a un léger goût caramélisé. Mm-hmm. Et cette coloration un peu plus ambrée qu'une pâte sucrée nature au sucre glace.
Et la vergeoise, on en trouve de la blonde ou de la brune?
Vous, c'est oui. plutôt de la...
brune.
De la brune, je le vois voilà. sur la photo. Votre pâte sucrée à la vergeoise, il y a 115 grammes de farine T50. Il y a un peu de poudre d'amande, 15 grammes. Il y a 30 grammes de vergeoise, il y a un peu de sucre glace aussi, 15 grammes, ça c'est pour la texture de la pâte ?
Oui, pour équilibrer avec le croquant de la pâte.
Il y a une pincée de fleur de sel, ouais. Il y a 25 grammes d'œufs, ça c'est vraiment les proportions
pour un flan de mon livre.
Sachant qu'après, il faudra, alors là vous avez pris le parti de faire un flan assez haut dans un cercle à pâtisserie, qui fait quelle dimension ?
14 cm de diamètre et 6 cm de hauteur.
Donc on est plutôt étroit en diamètre et assez haut.
Exactement.
C'est ce qui accentue, je trouve, la texture de ce flan. Quand il est très épais comme ça, on a vraiment cette dimension crémeuse, onctueuse en bouche. Ouais. Cette pâte, on mélange les ingrédients, il y a tout le process, évidemment, dans votre recette, mais oui. une chose est importante, c'est qu'on ne manie pas trop la pâte.
Non, non, sinon la pâte devient élastique après. Voilà, donc il ne faut pas trop manier, il faut la... Faut la chouchouter, quoi.
Faut la chouchouter. Et autre règle importante, c'est ce que vous précisez dans votre livre. Cette pâte, pour faire le flan, demande du repos.
Oui, parce qu'il y a de la matière grasse avec le beurre. Donc, il faut laisser reposer pour que ça refige un petit peu, quoi.
Combien de temps ?
Minimum 6 heures, pour moi. Mais c'est bien de le faire préparer la pâte la veille pour préparer l'appareil le lendemain avec le flan.
Donc, on fait sa pâte, on filme la pâte et on la met au frigo ?
Exactement, tout à fait.
Et le lendemain, on fonce notre moule. Alors là aussi, il y a un peu de technique.
Un peu de technique.
Racontez-nous comment vous faites pour... Parce que là, la régularité de votre pâte est carrément impressionnante. On a l'impression...
Elle est très fine. Ouais. Parce que souvent, la pâte sur les flancs, c'est un peu trop épais et du coup mal cuit. Et là, elle est parfaite.
C'est vrai. Alors là, vous allez nous expliquer comment foncer un moule avec votre cercle, sachant qu'il n'y a pas de secret pour Déborah, qui fait ça à peu près tous les dimanches. Mais en tout cas, ça peut être un certain défi technique. En gros, on a un tapis de cuisson sur une plaque de cuisson allant au four et on a donc ce cercle à pâtisserie de 14 cm de diamètre ouais, sur 6 cm de hauteur.
Exactement. Donc, tout simplement, il faut étaler la pâte à 3 mm. Moi, je l'étale à 3 mm. Alors, petite astuce, avec des petites réglettes de support qui nous permettent d'avoir cette régularité de pâte à 3 mm. Voilà. Et puis, moi, j'utilise la technique de bande. Alors, la technique de bande.
Intéressant.
C'est étaler la pâte et découper des bandes à la taille de la circonférence du cercle.
Et là, pour ça, vous faites quoi ? Vous aidez d'un patron ? C'est comme en couture ?
Ouais, un petit gabarit. Alors, on va faire un peu de maths.
Oui.
Alors, la circonférence d'un cercle, c'est pi fois le diamètre.
Ouais.
Donc, pi 3/14 et le diamètre 14. Donc 3/14 fois 14, ça fait pour moi, pour mon cercle de 14 cm, ça fait une bande de 44 cm.
Très bien.
Donc on étale la pâte sur 44 cm, au minimum, on découpe une bande donc, de 44 cm.
On doit obtenir un rectangle si je vous suis.
Un rectangle de 44 cm sur 6 cm.
C'est ça, la hauteur du flan.
Du flan. Donc un petit passage au congélateur, le temps de... détailler le cercle, le fond de pâte, le disque, voilà. Et tout simplement, et puis recercler le faire le fonçage avec la bande, et puis revenir souder le disque de cercle.
Donc il y a le disque du fond de la pâte,
voilà.
Avec la bandelette tout autour, on fait une petite soudure, ça consiste à appuyer légèrement avec les doigts.
Exactement.
Très bien.
La pâte sucrée se soude très rapidement, et puis après, de toute façon, il y a pas de. À la cuisson, la pâte sucrée se ressoude aussi.
Tu as compris pourquoi Déborah faisait de la pâtisserie à la maison avec ses enfants ? C'est pour leur faire réviser les maths ?
Tout à fait.
C'est ça ?
On a une activité pédagogique.
Pour faire de la géométrie. Ben, c'est intéressant. En tout cas, tout est expliqué dans votre recette. Ouais, et là, exactement. On obtient effectivement une pâte avec ce cercle de cuisson qui va oui. tenir évidemment la pâte oui. pendant la cuisson. La deuxième étape qu'on va voir un peu plus tard, ben, c'est justement l'appareil. Le fameux flan qui est à l'intérieur, ce flan vanille. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas deux cuissons différentes. C'est-à-dire que vous ne cuisez pas d'abord votre pâte et ensuite vous versez votre appareil à flan.
Non, je fais tout directement. Tout directement, l'appareil et la pâte directement au four. Une seule cuisson.
Et ben voilà, c'est pas si compliqué.
Avec de l'entraînement, non ?
Et puis le secret de votre appareil à flan vanillé, délicieux, dans un instant. Mais là, on va faire une petite pause liquide avec notre ami Jérôme Gagnès, qui va tout simplement résoudre cette incroyable énigme de la bulle qui revient comme le saumon à la source. On n'a pas tout compris, mais on va y voir plus clair.
On va déguster. Sur France Inter.
En tout cas, on a compris aussi que y avait très clairement une robe saumon dans votre vin pétillant.
Oui, il y a une robe saumon puisque c'est un rosé demi-sec
Enfin, même il est au trois quarts sec là en fait, hein, si on veut rien prendre, parce qu'il y a un bon 70 grammes de sucre résiduel.
Qu'est-ce que c'est bon.
Mais c'est une pure gourmandise.
Oh là là.
C'est
effectivement la confiserie liquide.
Oui. C'est un petit bonbon
sans être saturant en sucre. Hein.
Non, c'est justement pas saturant. Donc évidemment, quand la bouteille est ouverte très très rapidement, une évaporation se fait et une deuxième doit s'ouvrir dans les quelques secondes qui suivent pour pouvoir satisfaire tout le monde. Je vous parle d'un vin qui est tout à fait particulier, qui a été créé, inventé, on va dire, d'une certaine façon, par un monsieur qui s'appelle Philippe Gourdon. Philippe et Françoise Gourdon du château La Tour Grise à Saumur. Mm-hmm. Ça a été repris aujourd'hui par un monsieur qui s'appelle Bruno Sioffi, qui a monté un petit négoce artisanal qui s'appelle Béret et compagnie. Bruno Sioffi a une longue expérience dans le vin. Il a un très prestigieux CV. C'est un homme qui fait du vin depuis très longtemps, qui a fait des vins extraordinaires. Il a commencé au tout début chez Jean-Pierre Frick, Chantal et Jean-Pierre Frick en Alsace, puisqu'il est à moitié alsacien, moitié italien, moitié alsacien. Puis ensuite, il est allé au domaine de la Pinte dans le Jura, qui est un superbe domaine. Et puis ensuite, il est revenu parce qu'il avait une nouvelle compagne qui est angevine. Donc il est allé en Anjou. Là, il s'est associé avec l'immense, l'illustrissime Marc Angeli, qui est un des grands vignerons d'Anjou. Et puis Philippe Gourdon, qui avait conservé tout le système dont je vais vous parler dans quelques instants, lui dit, écoute, est-ce que tu voudrais reprendre mon The Bulle ? Parce que ce vin s'appelle
avec un Z.
The Bulle. Z-E, plus loin, B-U-E, B-U-2-L-E.
Avec une jolie étiquette aux belles bulles roses.
À l'origine, ce vin avait été créé parce que il avait été refusé à l'agrément. Et donc, Philippe Gourdon et Françoise Gourdon l'avaient appelé zéro pointé. Il avait eu un zéro pointé à son devoir. Bref, l'ami Philippe Gourdon demande à Bruno si jamais Bruno Sioffi s'il veut reprendre ça, et Bruno saute sur l'occasion parce que c'est quand même un vin tout à fait incroyable. Comment c'est fait ? Ben c'est très simple. On fait un rosé de Cabernet Franc.
D'accord. Hein,
donc c'est pressé directement. Ici, étant donné que c'est du négoce, Bruno Sioffi, il achète du raisin à la fois sur des schistes, 30% viennent de Rabelais-sur-Layon, et 70% viennent du tuffeau, donc le calcaire, saumurois et de l'Anjou blanc. De l'Anjou blanc pour la terre qui est blanche. Donc c'est très intelligent parce qu'on a à la fois l'influence de Cabernet sur schiste, l'ampleur, la puissance et la fraîcheur et l'élégance des Cabernets sur tuffeau. Donc ça fait déjà un équilibre à l'origine, c'est un assemblage qui est très intelligent. Donc on a ce rosé demi-sec, et le rosé demi-sec, quand il fermente, il dégage du gaz carbonique. Et là où notre géo trouve tout, le génial Philippe,
écoutez bien
Philippe
cette solution.
Gourdon, il a l'idée de brancher un tuyau sur la cuve de fermentation et il récupère le gaz carbonique de fermentation. Il a une espèce d'énorme outre géante dans un hangar dans laquelle il stocke son gaz de fermentation.
Incroyable.
Alors c'est un énorme, d'abord ça ne rejette pas de CO2, mais surtout c'est un avantage énorme, c'est que ce gaz de fermentation, il est gavé des arômes de ces raisins.
Vous allez nous dire qu'il va le réinjecter dans le...
Et il réinjecte ensuite ce gaz de fermentation, donc la bulle revient à l'origine.
Ça alors.
Il réinjecte ce gaz de fermentation et il crée donc ce vin demi-sec, pétillant, qui est un... Vous l'avez dit, c'est Déborah qui l'a dit, c'est un bonbon liquide.
Avec une bulle fine.
Avec une bulle très fine. Alors, c'est très important de souligner le fait que, bon, tous les raisins sont en bio, puisque Bruno ne vinifie que des raisins en bio, mais voilà un vin qui vaut entre 12 et 15 euros dans le commerce,
quelle
ça
régale.
Dépend. Voilà un vin qui est fait de façon extrêmement propre, c'est bio, c'est... Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il y a un vrai joli vin, parce qu'il y a des beaux raisins, parce qu'il y a des jolis terroirs, et parce que Bruno Sioffi a une très grande méticulosité à la fois dans la mise en œuvre de ce processus d'élaboration et évidemment des vinifications dont il est un grand expert, mais aussi parce que ses achats de raisins se font d'abord, il paye le prix réel du raisin, c'est-à-dire que il a voulu monter ce micro-négoce. Au fond, il se définit comme un vinificateur artisan, un artisan vinificateur. Eh bien, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Il achète des raisins au juste prix. Il paye correctement les vignerons avec qui il travaille. Il s'assure en échange une grande fidélité de leur part, et ça lui permet année après année. Alors, il a repris en 2019, mais ça fait déjà deux fois que je goûte ses vins. Il en fait pas beaucoup. Il fait 11 000 bouteilles de ça. Il fait un chenin sec dont il fait 6 000 bouteilles, donc c'est vraiment de l'artisanat pur, c'est tout petit, mais ça vaut le coup d'être suivi, Béret et compagnie, parce que c'est un homme formidable, qui travaille très bien, et donc voilà, je suis très enthousiaste sur ce vin. Ça s'appelle The Bulle, rosé, Ça vient de chez Béret et compagnie par Bruno Cioffi. Ça vaut entre 12 et 15 euros.
Et ça titre à 9,5, c'est raisonnable.
C'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Il m'a envoyé la fiche technique. En fait, c'est à 8,65.
D'accord, c'est encore moins.
Donc vraiment, là pour le coup...
Et l'étiquette qui indique un vin biologique. Et de surcroît, il y a ce petit schéma sur la contre-étiquette.
Oui,
de
exactement.
Cette espèce de machine inventée par ce
Philippe Gourdon.
Philippe Gourdon. Avec ce gaz naturel de fermentation réinjecté dans le jus, dans le vin.
Exactement.
C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez de ce vin, Loïc Bianassi?
Oui, beaucoup de, enfin, ce côté, oui, bonbon, quelque chose de cidré aussi, j'ai envie de dire. On a l'impression
un petit peu de
boire du cidre. Enfin, je sais pas si c'est un compliment, mais si, il y a cet aspect-là.
Mais dans cette texture, en tout état.
Voilà, exactement.
Bien sûr, dans la texture. Ouais.
Jus Chamallow, un petit mariage d'amour entre The Bulle et vos flancs.
Un petit bonbon, hein. Vraiment, comme dit Déborah. Ça se fait bien avec le flan, je pense. Hein.
Et en termes d'accord, justement, les flans sont tout désignés, Jérôme.
En l'occurrence, oui, en particulier sur le flan à la vanille, parce que cette aromatique vanille fruits rouges fonctionne à merveille. Mmh. Puis ensuite, le gaz de ce vin, sa petite acidité, font merveille sur le flan. Je prends juste un tout petit mot. Je voudrais rendre un hommage à un vigneron qui vient de nous quitter, qui était un très grand vigneron, qui s'appelle Alain Graillot. Alain Graillot a commencé en 1987 à Crozes-Hermitage, après une carrière dans l'industrie. C'était un homme que je connaissais un tout petit peu, que j'avais rencontré à plusieurs reprises. Il était formidable, il faisait des vins remarquables. Ça a été l'un des grands artisans avec Laurent Combier, l'un des très grands artisans de la renaissance de Crozes-Hermitage et du succès que connaît aujourd'hui Crozes-Hermitage. Donc on adresse toutes nos condoléances attristées à la famille, en particulier Antoine et Maxime, ses enfants. Nous sommes bien tristes de cette disparition brutale.
On a trempé nos lèvres plus d'une fois dans les vins d'Alain Graillot. Oui, hommage à lui et condoléances à sa famille et ses proches à Crozes-Hermitage. Un grand merci Jérôme. Dans un instant, Loïc Bianassi va nous expliquer à quand remonte l'appellation de flan parisien ou de flan pâtissier. Bref, la vision moderne que l'on a du flan. Est-ce que c'est tout récent? Est-ce que ça date de plus loin? C'est ce qu'on va voir avec lui. Et puis la recette de l'appareil à flan vanillé pour un crémeux exceptionnel. On va voir ça avec Jus Chamallow.
You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see.
AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up wall. Love so big, I gave him my all. East or South, we're dreaming it all. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, 55 to making a pro. Body hot like cooking for long. We like to make love like whilst the dogs. I was on his side, East or South, we're dreaming it all.
Ran towards the last thought I could find. Yeah. Something bigger than the town that I had left behind. I remember packing on my bags, not saying my goodbyes. Warsaw used to be a place I'd only ever start my dreams in, but home is where my heart is. Feel so alone in a city so big, 'cause I used to know the person that lived at 23 and try to smell the flowers that weren't on the common green. Getting off the 6 oysters just to spend my 30p.
And I was just getting to know myself. The city broke me in inside.
You're not alone. I'll wait till the end of time. Open your mind. Surely it's plain to see.
AOT attract superstar. Crystal Palace, brap, brap, brap. Lymphic Christie Stadium. Every Tuesday, flagging a boy. Athletes low key capping a lot. Croydon College stacking up what? Love so big, I give my all. East or South, we're dreaming it.
Listen,
all.
Had to clean up my heart, mind, body, and soul. The London city's my home. She love me, fair, come, babe, leak at your toes. Put bricks in the sticks, come, we remake dough. Invest my flow to my young boy, look in your book and grow. Back then, he's the boot like we do up pro. Now his fins, we part from the block back days, cause we show down shows. Shows. Should I choose that Gucci or LV coat? Yo, I'm black and no hood on glow. The bandos beaming, my pastry comes from rotating phones. Gun step to the hood's gone clear, so much patience is greatness, call me bacon toast. Don't go, scar practice means perfect, girl, if you don't know, leave it to me, uncle.
FK Twigs avec Georgia Smith et Unknown Tea avec le titre Darjeeling. Bah tiens, justement, après les bulles rosées de notre ami Jérôme Gagnès, un petit thé Darjeeling, spécialement pour accompagner les flans de Jus Chamallow, ça peut être une bonne idée. Le flan, c'est notre menu pâtissier.
France Inter, François-Régis Gaudry. On va déguster.
Les questions se bousculent sur le mail d'On va déguster, sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Déborah,
Et notamment sur la question appareil. Ah, on utilise le terme appareil depuis le début de l'émission.
Bah, je ne fais pas d'erreur cette fois, j'espère.
Non, je pense que c'est bon, mais effectivement...
Une par émission suffit.
Il faudrait éclaircir pour certains auditeurs et auditrices qu'est-ce qu'un appareil en cuisine ou en pâtisserie.
Julien, vous employez le mot appareil ?
Oui, je l'emploie, oui. Pour moi, c'est la crème à flan qui est préparée, le mélange de tous les ingrédients.
Et de façon générale, quand on fait un gâteau yaourt et qu'on mélange tous les ingrédients dans un saladier, on dit qu'on mélange l'appareil, autrement dit la pâte à gâteau, dans le moule, on est d'accord là-dessus ?
Avant cuisson.
Est-ce que Loïc Bienassi vient à ma rescousse cette fois-ci ?
Oui, mais...
Est-ce qu'on a bien lâché sur tir au flanc ?
Mais non, pas du tout. avant cuisson, oui, exactement. On trouve ce mot même dès le XVIIe siècle, hein, d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Dans certaines recettes, dans des recettes de flan, d'ailleurs, je pense.
Bon, je respire. Une deuxième question ou pas, Déborah ?
Une deuxième question qui porte effectivement sur la végétalisation du flan, des personnes qui sont allergiques, intolérants. Qui souhaiterait savoir si on peut faire des flans sans œufs ou sans produits laitiers. Est-ce qu'on peut remplacer le lait de vache par un lait végétal ?
Alors ça, c'est une vraie question. Je crois connaître la réponse. Mais pour diminuer un peu la teneur en protéines animales dans un appareil à flan, est-ce que l'on peut remplacer ce fameux lait animal par du lait végétal ?
Oui, il est possible. Julien. On peut le faire au lait d'avoine. Ou lait végétal. Oui, c'est tout à fait possible.
Sauf qu'on va voir que vous mettez aussi de la crème.
De la crème aussi, oui. Oui, mais il existe maintenant de la crème végétale aussi, donc il est possible.
Oula, la crème végétale.
Moi, je l'ai pas indiqué dans mon livre parce que c'est une question.
C'est pas pour vous.
C'est une question de goût. Après, je pense parce que moi j'aime ce petit goût d'œuf. Donc dans tous mes flans, il y a des œufs. Donc voilà.
D'accord. Et les œufs, par contre, c'est compliqué de trouver une alternative.
Des œufs végétaux, ça existe pas encore.
Arrête.
J'ai entendu dire que bientôt.
Ah bah voilà, on n'arrête pas le progrès.
Cher Loïc Bienassi, pour résumer nos enjeux historiques, il y avait donc des spécialités anciennes dont vous nous avez parlé, qui ressemblent en termes de goût, de consistance, d'ingrédients, de composition, à ce que l'on appelle flan aujourd'hui, mais qui ne s'appelait pas flan, hein. On a fait à peu près le tour, et notamment cette fameuse dariole. Sauf que là où ça se complique légèrement, c'est que quelques siècles plus tard, il y a des spécialités, notamment au 19e, qui se nomment flan, mais qui n'ont rien à voir avec l'image que l'on se fait du flan aujourd'hui et le flan que nous sert Julien Chamallow.
Absolument. On emploie le mot flan, hein, bien sûr. Mais dans les traités de pâtisserie, donc si on parle vraiment du langage technique, professionnel des pâtissiers, si on ouvre les traités de pâtisserie, notamment deuxième moitié 19e siècle, parce que j'ai envie de dire les choses se mettent en place progressivement, en fait, flan, c'est synonyme de tarte.
Ah.
Donc un flan aux fruits, c'est une tarte aux fruits. On a par exemple un dictionnaire de Joseph Favre toute fin 19e siècle où il explique qu'il y a 6 types de flans, des flans d'appareil salé, des flans aux crèmes, des flans de fruits cuits, etc., etc. Parce que flan égale tarte. Donc ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a des tartes à appareil salé et en fait les flans aux crèmes, là c'est ce que nous on appellerait un flan. Vraiment, c'est-à-dire que c'est une tarte à la crème égale flan actuel. Je sais pas si je suis clair.
Si, j'ai jeté un œil dans le mémorial historique et géographique de la pâtisserie de Pierre Lacam. Voilà, 1900, édition 1901. Plusieurs flans évoqués, flan grillé, flan poire, flan anglais, flan polonais, flan portugais, flan Félix. Tous ces flans, j'ai regardé les recettes, ça n'a rien à voir avec le flan de Julien Chamallow et le flan parisien ou le flan pâtissier. C'est vraiment des flans avec des fruits. Par exemple, il y a beaucoup d'abricots dans le flan portugais.
Voilà, c'est une tarte en fait, c'est une tarte. Faut prendre ça comme le mot tarte.
Alors à partir de quand apparaissent cette appellation de flan pâtissier ou encore de flan parisien qui a en quelque sorte sanctuarisé la recette actuelle.
Exactement. Je pense qu'en fait, c'est parce que ce que je viens d'évoquer là, c'est le vocabulaire professionnel. Par contre, le vocabulaire courant, populaire, on va dire, là, il y avait plus de flou. Et il est clair que dès le 19e siècle, j'allais dire le commun des mortels, lorsqu'il parlait de flan, pouvait parler aussi de tarte, mais pouvait aussi parler de flan tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, si on en est venu à qualifier le flan comme on le fait aujourd'hui, c'est parce que finalement, la façon de parler populaire, la façon de qualifier le flan, a pris le dessus sur le parler professionnel, et le professionnel s'est incliné, j'ai envie de dire, devant le sens commun.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Deuxième moitié 20e siècle, clairement. C'est pour ça que je sais pas si on ouvre aujourd'hui le Larousse gastronomique. Contrairement au Larousse gastronomique de 1938, par exemple, où on est encore à cette idée de flan égale tarte, bah, si on ouvre
la dernière édition, c'est 2012.
C'est ça, oui, 2012. Bah, là, on a une définition qui correspond à ce que tout le monde entend par flan.
Très bien. Et alors, l'appareil à flanc de Julien Chamallow, que l'on va enfin verser dans cette pâte. Alors, je rappelle qu'elle a été foncée dans le moule, enfin dans le cercle à pâtisserie avec le tapis de cuisson, qu'elle est donc prête et qu'elle est crue, puisqu'elle n'a pas cuit au préalable. Hein. On fait tout en même temps.
Il y a eu un petit passage au congélateur quand même pour figer et structurer toute cette pâte.
Petit passage, c'est important, de la pâte une fois qu'elle a été foncée. Oui. Hein. Oui. Très bien. L'appareil à flanc vanille. Alors, allons-y pour les proportions.
Alors, les proportions, 40 grammes d'œufs, c'est à peu près 2 jaunes d'œufs.
Oui.
50 grammes d'œufs, donc c'est environ un œuf entier.
40 grammes de jaunes d'œufs, oui. 50 grammes de blancs.
D'œufs entiers.
D'accord, d'œufs entiers. Voilà. Oui, tout à fait.
100 grammes de sucre, voire on peut diminuer un peu si on aime
augmenter.
Pas trop. Ou alors augmenter, ça dépend des personnes.
Pas, hein. On ne diminue pas.
C'est ça.
45 grammes de fécule d'amidon, donc maïzena, si je peux le citer.
Bien sûr, et ça contribue en fait à la texture du flan pour la rendre crémeuse sans trop...
Exactement. J'évite la poudre de flan. Je préfère...
Et oui, parce qu'il y a des poudres de flan ou des gélatines parfois utilisées.
Et qu'on trouve aussi dans des recettes professionnelles. Hein. Beaucoup de professionnels disent de rajouter un peu de poudre à flan. Effectivement, ça a le côté texturant de l'amidon, en fait.
Exactement. Mais donc, après, il y a des arômes artificiels, etc.
Et nous, pour notre flan de 14 cm de diamètre, c'est 45 grammes de fécule de maïs, autrement appelé maïzena. Voilà. C'est pas la première fois qu'on cite une marque.
460 grammes de lait entier.
Oui.
Entier, je précise.
Ça, c'est important pour le gras. Voilà.
Et 150 grammes de crème liquide.
Voilà.
À quel pourcentage de gras la crème? La plus grasse possible, dans les 35-40%?
30, c'est bien. Minimum 30%.
Et n'oublions pas, évidemment, la bonne gousse de vanille.
Très important.
Une vanille entière pour un flan pour 4 personnes.
Oui.
Oui, oui. Mais voilà.
C'est
bien vanillé. Et oui, alors là, on mélange tout ça, on obtient notre appareil, hein, pardon de réemployer ce mot.
Oui.
Et que l'on verse ensuite sur notre pâte.
Notre pâte qui a été foncée au préalable. Et une cuisson directement à 180 degrés pour 30-35 minutes en fonction des fours. Moi, après, j'augmente un peu la température sur les dernières minutes, 3-5 minutes à 230 pour avoir cette petite croûte noire.
J'allais le dire, il n'y a pas de flan tel que l'on le conçoit. Alors le flan pâtissier, le flan parisien, on l'appelle comme on veut, sans cette espèce de petite peau, cette espèce de petite pellicule légèrement carbonisée, il faut bien le dire. Hein. Mais il ne faut pas avoir peur justement de ce côté un peu noir.
Non, pas du tout. Ça. Et puis c'est très très bon de toute façon.
Regardez-moi la beauté de ce flan, il est déjà avalé dans nos assiettes. Déborah ?
Oui, une question par rapport au mode de cuisson, chaleur tournante ou four statique par la sole ?
Le mieux est le four statique par le sol. La cuisson de la pâte en dessous cuit beaucoup mieux que chaleur tournante.
C'est l'erreur classique et c'est pour ça que beaucoup de flans ne sont pas assez cuits, que la pâte n'est pas assez cuite. C'est parce qu'on a tendance à le faire en chaleur tournante qui va plus dessécher, alors que la cuisson vraiment des flans se fait dans un four à sol.
Parfait. Autre question, évidemment, on aurait tendance à se dire le flan, on va le manger lorsqu'il sort du four. Non.
Non.
Ça doit figer et reposer.
Oui. Alors oui, pour les flans, il faut être patient. Et donc, il y a peut-être une attente de 2-3 heures pour que le temps que le flan se fige. Parce qu'à la sortie du four, il tremblote encore.
Et oui.
Donc là, si vous le découpez, là, c'est la catastrophe.
On laisse se figer légèrement.
Là, on le mange à la paille.
Et on obtient cette pure splendeur. Julien Chamallow, est-ce que vous avez quelque chose contre le salé?
Contre le salé, pas du tout.
Vous
il existe
ça.
Des flans salés aussi. Hein.
Et ben, alors, je ne sais pas si c'est un flan salé, mais en tout cas, Déborah Dupont est déjà au travail. On va parler, attention, charcuterie, n'ayez pas peur du jet lag.
On va déguster. Sur France Inter.
Déborah. Ah, on va vous aider à faire le service.
Oui, parce que là, j'ai fait une petite catastrophe. Ah, elle est presque moins garnie, cette pâte. Ah. Ben, c'était logique. Quand on avait fait l'émission sur les spécialités charcutières en décembre 2018, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc avec Arnaud Nicolas et Johan Lastre.
Et évidemment, deux noms de la charcuterie.
J'avais pas osé me lancer dans le pâté croûte face à eux, donc j'étais arrivée avec un flan. Donc il était logique, juste au retour des choses, trois ans après.
Que vous fassiez de la charcuterie dans une émission flan. J'ai bien compris.
Je voulais surtout vous parler d'un livre absolument extraordinaire paru en fin novembre dernier aux éditions Duchesne.
Ça a créé référence.
Oui, Leçon de pas à pas, charcuterie par Sébastien Zozaya. Donc Sébastien est meilleur ouvrier de France en charcuterie, il est sur le Pays Basque. Et il a proposé une somme absolument incroyable sur la charcuterie de manière générale, donc les pâtés, les saucisses, les spécialités diverses. Et beaucoup de spécialités façon tourte, pâté croûte, donc à base de pâtes et d'appareils. C'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui.
On est sur de la pâtisserie salée en quelque sorte.
Exactement. Mais d'ailleurs, il a un chapitre qui s'appelle pâtisserie charcutière.
Donc c'est ça.
Effectivement, avec des. Mmh. Oui. C'est pas mal, hein.
Oh, c'est bon.
Alors j'ai choisi simple. Hein. J'ai choisi simple. Une petite tourte au canard confit.
Qu'est-ce que c'est bon. On va attendre l'avis de Jérôme. Mais...
Jérôme qui salive dessus depuis que j'ai commencé à publier les photos hier.
Quelque chose.
Oh, c'est délicieux.
C'est pas mal.
Ah, c'est parfaitement conforme à la promesse. Bravo, Déborah.
Donc, la recette, alors, c'est un peu conséquent. C'est pour faire 4 tourtes pour 2 personnes. Donc, on est sur des tourtes. Enfin, vous les avez vues, là, je l'ai coupé en 4.
Ça, c'était une tourte pour 2.
Ça, c'était une tourte pour 2. Ça vous plaît comme conception de la générosité.
C'est bien, c'est bien.
Donc, pour 4 tourtes, 200 g de champignons de Paris, 5 échalotes, 1/4 de bouquet de persil, 2 l'estragon, 1 bouquet garni, 1 petit verre de Porto.
Attendez, il y a de la. Je sens un
verre de
croque.
Viande. Il y a des noisettes. Il y a des noisettes. Du piment d'Espelette et des cuisses de canard confit. Donc, en fait. L'avantage aussi de cette recette, c'est qu'elle peut s'étaler dans le temps. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai préparé le canard. Donc en fait, on fait pré-cuire le canard, on va l'effilocher, on va le faire compoter avec donc les échalotes, les champignons, le porto. Ensuite, on utilise un cercle à pâtisserie. Donc on va mouler ça dans un cercle, on fait prendre au congélateur. Donc là, l'avantage, c'est qu'une fois que c'est au congélateur, vous pouvez le bloquer plusieurs jours. Hier soir, j'ai étalé ma pâte feuilletée. Je l'ai laissé toute la nuit, les abesses de pâte feuilletée prédécoupées au réfrigérateur. Et
on
ce
a
matin,
le droit de se servir d'une bonne pâte feuilletée.
Exactement, ou sinon on la fait soi-même. Oui, tout à fait. Ou sinon on la fait soi-même. Mm-hmm. Et ce matin, j'ai monté les tourtes, donc c'est façon galette des rois. C'est-à-dire que vous avez une abesse, vous mettez votre appareil à canard, vous dorez, vous mettez l'autre abesse de pâte, vous soudez. Un petit passage au congélateur, comme pour le flan. Et ensuite, on dore, on fait cuire.
Quelle régal.
Ça cuit combien de temps?
Ça cuit une vingtaine de minutes.
Ah, c'est très rapide.
Oui, elles sont petites.
C'est
et
délicieux.
On n'a pas besoin de faire de cheminée. Enfin,
bon,
franchement,
oh là là.
C'est incroyable.
Ouais, en plus, ce qu'il y a d'incroyable, c'est que.
J'en ai une deuxième.
Ouais, ah, bah, ça, vous allez la sortir direct. Non, mais ce qu'il y a de fou, c'est qu'elle est encore un peu tiède et chaude. C'est délicieux.
J'ai fait cuire ce matin. J'ai passé ça en cuisson à 9h30. Donc, sortie du four, enfin, le temps que ça refroidisse un peu, j'ai emballé. 10h, j'étais sur mon vélo et je suis venue à la maison de la radio avec.
Et la chair du canard crémeuse, quasiment compotée, c'est. C'est une vraie folie. Vous en pensez quoi, Loïc Bianassi?
Le contraste, justement, là, des noisettes.
il a tout moulé, hein.
Non, mais
comme les flambeaux.
Il est
très bon d'avis sur cette émission.
C'est hyper professionnel, Loïc, parce que vous avez bien tout mangé.
Il n'en reste pas, il y en a une deuxième. Donc,
vous pouvez leur servir en vin aussi, je crois qu'il a soif.
Et donc, du coup, on se moque, hein, c'est une revanche, j'ai bien compris. Et non, justement, le contraste, moi, je trouve que les noisettes apportent quelque chose. Là, c'est avec le fondant du canard et les noisettes en contraste.
Ça apporte du croquant et de la gourmandise.
Et donc, sachez que toutes les recettes en fait de ce livre sont de cet acabit et très très bien détaillées. C'est-à-dire que là, la recette, elle est sur 3 doubles pages, donc 6 pages d'explication. Il y a 2000 photos dans cet ouvrage.
En pas à pas, c'est.
En pas à pas.
Je l'ai feuilleté. Il est vraiment fabuleux. Vous nous en rappelez les références, s'il vous plaît, Déborah.
Donc, charcuterie, leçon en pas à pas de Sébastien Zozaya aux éditions Duchesne à 59,90 €. Donc, certes, c'est cher pour un livre de cuisine, mais franchement, ça les vaut très largement. Dès que vous vous intéressez un peu à ces spécialités, n'hésitez pas.
Un ouvrage vraiment, vraiment fou. Julien Chamallow, vous en pensez quoi de cette tourte au canard?
Ouais, très, très, très bon, je crois. On peut dire ça. Hein.
On peut dire, très, très bon. Franchement, on peut vraiment le dire. Un petit mot, on va se quitter dans un instant sur vos deux autres déclinaisons. Oui, car l'avantage du flan, c'est que, évidemment, on peut le parfumer à la vanille. Ça, c'est la version classique. Oui. Mais on peut également y ajouter, alors, des inserts. On va pas rentrer, malheureusement, dans la technique de vos inserts, etc. Mais en tout cas, on peut varier les univers aromatiques. Et on en a la preuve avec, notamment, le flan chocolat sarrasin. Racontez-nous.
Exactement. C'est un chocolat sarrasin. Alors, c'est un praliné sarrasin qu'on a en fond du flan, et avec une pâte sucrée sarrasin. Voilà, j'ai remplacé la farine de sarrasin, la farine de blé par la farine de sarrasin.
Oui, voilà. Et il y a notamment... Alors, vous en pensez quoi, chocolat sarrasin, là, les amis?
Ça fonctionne très bien. Vraiment, je ne suis pas toujours un fan, mais en plus de ce qu'est au sarrasin, et là, vraiment, ça fonctionne très bien.
Merci.
Et le praliné apporte beaucoup.
Oui.
C'est un vrai plus, le praliné.
Et quand on va se quitter, on va goûter ensemble, justement,
pistache. Praliné pistache.
Praliné pistache. Donc c'est vraiment une super nouvelle. Un énorme merci, Julien Chamallow, d'être venu nous montrer votre talent en matière de flan. Mes flans pâtissiers, 50 recettes de flan classiques et créatives aux éditions de La Martinière, avec les photos signées Emery Chemin. Un grand merci, Loïc Bienassi, pour vos éclairages sur le flan. Vous revenez le 10 avril pour une émission sur la cuisine du France. On fête son anniversaire, le célèbre paquebot. Absolument. À la gloire de notre France. Et ben, il y avait aussi une très belle cuisine qui était servie.
Tout à fait.
Et on en parlera avec vous. La semaine prochaine, on se met à table avec Marcel Proust, avec Stéphane Sellier, notre spécialiste de la littérature dont on va déguster. Manon Fleury et Dominique Hutin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. Je vous dis à bientôt, Déborah et Jérôme.
À bientôt pour le France.
À bientôt.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.